Le monde est une énième fois en danger. Mais qui pourra sauver la Terre du réchauffement climatique, des virus et de la surindustrialisation? À moins que le problème ne vienne d'ailleurs. Par exemple, d'une organisation extrémiste et terroriste extrêmement puissante qui prône la suppression des alters pour revenir à une version ultra-conservatrice de l'humain sans aucun pouvoir. Car sur cette planète où 80% de la population possède désormais un alter, un super pouvoir en somme, les 20% d'humains restants qui n'ont que leurs mains pour pleurer font pâle figure face à cette super héroïcité devenue la norme. Et la norme, on le sait, ça ne plaît pas à tout le monde. Pour analyser, comprendre et contrer cette menace interplanétaire, je suis entouré d'une équipe de super animateurs de choc. Les jeunes de l'accueil Loisirs Ados de l'ODEV, avec qui nous venons tout juste d'assister à la projection du film d'animation My Hero Academia World Heroes Mission au cinéma Luteva de l'ODEV. Pour les nommer, ce sont Electre, Luce, Eline, Midi, Colin et Sofiane. Au micro, à mes côtés, l'as des as de l'analyse ciné qui démonte les clichés en un tour de bras, Florian Etienne, membre de la Compagnie des Jeux, dont le troisième œil spectaculaire va nous éclairer sur ce film et les thématiques abordées. Il est également accompagné de Sarah en service civique de choc. Et à défaut de se battre pour le monde, nous allons en débattre. Cette émission n'existerait pas sans le soutien de la ville de l'ODEV, terreau reconnu de l'héroïsme éroté. Notre second ciné-débat autour du film My Hero Academia, c'est parti. Venez d'entendre le générique de l'animé de la première saison de My Hero Academia, que d'ailleurs nos animateurs ont chantonné. On voit qu'il y en a qui connaissent autour de cette table. My Hero Academia, manga au succès planétaire, écrit et dessiné par Koei Horikoshi, et qui est publié depuis 2014 dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump, qui a notamment fait connaître au monde Dragon Ball, Naruto, One Piece, Hunter x Hunter et Yu-Gi-Oh! Pour dire l'ampleur du papier. La version française est publiée par Kyoen depuis 2016 et a notamment atteint cette année les 3 millions d'exemplaires vendus. C'est pour dire, My Hero Academia compte déjà son actif une trentaine de tomes publiés, 5 saisons à la télévision, des jeux vidéo et 3 longs métrages. En 2021, le manga atteint les 50 millions de ventes dans le monde. Mais qu'est-ce qui fascine autant dans cet univers? Pourquoi dans nos cours de récré, Naruto, Tatan, Tintin et Luffy désinguent Lucky Luke? Ces fresques épiques aux traits simples participent-elles à ouvrir plus largement notre imaginaire sur le monde qui nous entoure? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble.
Alors déjà, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table pour celles et ceux qui connaissent déjà un petit peu l'univers de My Hero Academia. Ce que vous en avez pensé, ce qui vous plaît particulièrement dans ce manga ou pas.
Ce que j'aime bien, c'est les pouvoirs, parce que Moi, vu que j'aime bien Naruto, ils ont des techniques un peu spéciales qui font recours à des pouvoirs. Et dans l'anime My Hero Academia, il y a Todoroki avec le feu et la glace. Ça m'a fait penser à Naruto. Et aussi dans le film, j'ai trouvé que un des méchants qui se combat contre Bakugo, il ressemblait beaucoup à Orochimaru avec sa longue langue quand il se léchait un peu et avec ses yeux. Ça me faisait penser à Naruto, c'est pour ça que j'aime bien.
Oui, c'est vrai qu'on peut faire des passerelles entre les deux dessins animés hein, qui reprennent aussi des archétypes du shonen. On expliquera un petit peu ce que c'est le shonen tout à l'heure.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une autour de la table qui voudrait nous faire un petit résumé du film ?
Bah, en fait, ça commence où on voit que des terroristes ils font un attentat dans la ville ils lancent un espèce de gaz qui amplifie les haltères. Et donc, qui tue les personnes qui ont des haltères. Donc, les seules personnes qui vivent, ce sont les sans-haltères. Donc après, tous les héros vont essayer de trouver ces terroristes sur la planète Terre. Et Shoto, Bakugo et Deku, qui sont avec Endeavor, vont en France. Et donc à Paris, et là, ils trouvent qu'il y a des gens qui volent des pierres précieuses. Et il y a un gars qui vient et qui, en fait, lui, il est censé prendre les pierres précieuses. Il se barre avec. Et en fait, il échange de mallettes. Et donc, pendant tout le film, on a la mallette. Et puis, Deku va le rencontrer. Et ils vont vivre des aventures ensemble. Après, je vais pas continuer parce que sinon, ça va spoiler les gens qui veulent le voir. Et regardez-le parce qu'il est génial.
Ok, et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, autour de la table de ce film ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça vous a pas plu ? Pourquoi ?
Personnellement, j'ai un avis assez mitigé par rapport au film. Parce que, j'ai passé un bon moment devant, mais c'était avec un scénario très à la américaine où il y a les méchants, les vilains. Évidemment, ils gagnent. Il n'y a pas eu trop de problèmes tant que ça. Il y a beaucoup de faux raccords quand même. Enfin, y a les espaces-temps sont un peu déréglés. Et puis, beaucoup de gentils, en quelque sorte, auraient dû mourir bien avant. Mais ils sont restés en vie.
Ça clash le film, là. Alors, qui sont les partisans, au contraire, qui ont kiffé l'animation, tout ça ?
D'accord, oui, s'ils seraient tous morts, c'est sûr que ça serait beaucoup plus réaliste, on va dire, mais après, c'est des codes du shonen, c'est le neketsu, s'ils seraient morts, le film, il n'aurait pas vraiment de sens. Donc, après, il y a les codes, et puis après, on peut sortir, mais bon, si on sort trop... Le film n'a plus de sens.
Donc pour toi qui es un peu expert en shonen quand même autour de la table, ça fait partie des codes et des choses qu'on retrouve régulièrement dans les shonen que les personnages principaux ils prennent quand même cher sur les bastons, mais finalement ils se relèvent et ils sont encore là quoi.
Ah oui c'est même des codes le code on va dire principaux, c'est que le raté devient le plus fort et que par un événement il se dit c'est pas possible, je peux pas perdre comme ça, faut que je me relève, il faut que je le tabasse.
Donc une question de motivation et de courage qui fait qu'on se relève au pire de la bataille pour finalement triompher.
Qui pourrait définir ce qu'est un shonen ?
Shonen, ça veut dire jeune garçon. Donc, ce sont les mangas, les animés qui sont destinés aux jeunes garçons. C'est entre 8 et 17 ans, on va dire.
Alors, il y a déjà débat, on le sent, par rapport à ce que c'est destiné aux garçons, parce qu'il y avait quand même beaucoup de filles dans la salle.
C'est comme dire que les filles elles aiment le rose et le garçon il aime le bleu.
trouve.
Pour toi, c'est un cliché de dire que ce genre de, d'univers-là, c'est réservé aux garçons.
Oui.
Ok. Toi, ça te plaît, bien que tu sois une fille, tu t'identifies au personnage, tu suis les aventures.
Oui.
Et alors, du coup, question annexe. Qu'est-ce que tu penses de la place des filles dans l'univers de My Hero Academia ?
J'avoue que les personnages principaux, c'est surtout des garçons. Et que des fois, les filles, elles passent pour des impuissantes.
Et ça, ça te...
Non, pas trop.
Ouais, étonnamment. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir sur cette histoire des shonen, c'est fait pour les garçons
Après, c'est des codes. Et puis, dans My Hero Academia, c'est Uraraka, par exemple, dans la saison 5. Sans elle, des coups, il serait mort. Et enfin, je veux pas spoiler, hein, mais bon.
Oh là là.
Donc pour toi, les filles, elles ont quand même une place dans cet univers-là.
Oui. Après, c'est pas la même place que les garçons, mais oui. Enfin, après, c'est surtout, par exemple, enfin, niveau shonen, c'est du coup, bah. Pas beaucoup, parce que quand même, c'est... Oui, c'est des clichés, du coup.
Je pense aussi que culturellement, on s'est beaucoup plus occupé de... Enfin, souvent, on est là pour faire l'éducation aux garçons, et les filles, on les laisse un petit peu de côté. Et c'est vrai que dans la plupart des shonen et tout ça, on a souvent les mêmes valeurs, l'amitié, la force, la persévérance, le courage... Et c'est toujours des clichés qui reviennent souvent aux garçons, alors que ça va aussi très bien aux filles. Et peut-être que c'est de là où ça vient aussi, ce truc-là. Et après, dans la place des filles dans My Hero Academia, c'est souvent, elles sont là quand même pour servir un peu un fantasme masculin dans leurs vêtements, comment elles sont représentées, tout ça. Je trouve ça un peu dommage aussi, quand même.
Ouais, elles ont souvent des tenues très moulantes près du corps... Et elles sont roses, pour beaucoup. En tout cas, elles ont un costume rose ou qui y fait référence. Tout à l'heure, tu nous disais, Milly, que shonen, ça veut dire jeune garçon.
Oui, en japonais, c'est la traduction.
Ouais. Est-ce que du coup, ça veut dire que les mangas, c'est juste pour les garçons ?
Non, il y a le shoujo, qui veut dire jeune fille. Il y a les seinen, hommes adultes, et les hosei, c'est femmes adultes.
D'accord, et ça, ce sont les quatre types de mangas, et chacun des types de mangas, du coup, est appelé en fonction du public que ça cible.
Oui, après, il y a d'autres styles, donc les ecchi, les hentai... voilà...
sont plutôt pour les adultes, les hentai.
Et les ecchi aussi, parce que ecchi, c'est un peu comme les hentai, mais plutôt érotique.
D'accord, tentaculaire. Mais on peut peut-être parler des héros masculins, à défaut de héroïne dans ce film. Donc, Deku, qui pourrait un peu décrire... Deku.
Oui, Deku.
C'est... La version française, c'est terrible.
C'est comme Hunter... t'as dit tout à l'heure, Hunter x Hunter, c'est... Enfin, après, ça dépend des gens, mais c'est Hunter x Hunter.
En fait, c'est juste qu'il y a une petite croix au milieu.
Mais c'est...
Non, mais on a plus l'âge. Ouais.
Et c'est Luffy aussi. Luffy.
Voilà. Petite flèche en direct. Je
fais vrai. Alors, ce personnage de Deku, qu'est-ce qui vous inspire? Voilà, en quoi est-ce qu'il est assez emblématique et personnage principal de la série et donc du coup du film qu'on vient de voir?
Deku, à la base, c'est un sans-alter, mais il a tellement persévéré, il a suivi All Might, l'emblème de la paix, donc il va le poursuivre et il lui dit qu'il n'a pas d'alter. Et il lui demande si sans alter on peut devenir un héros. Donc All Might il lui dit non, mais plus tard il va lui dire oui et lui donner son alter. C'est pour ça. Moi je pense que c'est pour ça que c'est devenu un héros principal, un sans alter qui devient un personnage avec un alter. Voilà.
Donc il a peut-être un peu plus de mérite que les autres qui sont nés avec leur pouvoir.
Oui.
Ok, les autres, qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage-là et de cette caractéristique qui fait que c'est... à la base, il fait partie des 20% qui n'ont que leurs mains pour pleurer, enfin leurs yeux pour pleurer, du coup, parce que pleurer avec les mains, c'est pas super évident, et qui se retrouve doté du pouvoir du super-héros numéro 1 à travers le monde. Et donc il va se battre pour être au niveau de tous ses copains et copines qui ont des pouvoirs limites depuis la naissance.
Oui, il est né sans os au petit doigt, au petit orteil. C'est comme ça qu'on sait si les gens sont dotés d'un alter ou pas dans le monde de My Hero Academia. Mais après, ce que je trouve dommage, enfin, c'est pas dommage, c'est fait exprès, dans ce personnage, c'est qu'il est un peu trop gentil, niais. Moi, je préfère les personnages comme Bakugo, Shoto, qui sont plus, je vais pas dire anti-héros. Enfin, si, au début, Bakugo est quand même anti-héros. Après, à la fin, c'est pas un anti-héros, mais c'est plutôt... voilà, moi, je préfère les personnages plus comme ça, que lui, il est très... voilà.
Donc toi, tu t'identifies plus à ceux qui sont pas les plus sympas de la série, quoi.
Oh oui. Après c'est l'identification, ça se fait dans la tête, donc on le contrôle pas ça. Et donc pareil, dans un film comme ça, là, oui, forcément, on s'identifie à tous les personnages, surtout à Deku. Parce qu'il y a la fin, voilà. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, à Yue, à tout ça, moi, je préfère Shoto et Bakugo.
J'avoue qu'on sent réellement la passion de ce personnage. Pour la justice, jusqu'au point de ne même pas gratter le bus quand c'est le moment de prendre un autobus. Il va même payer ses tickets de bus. Alors, pour dire que c'est vrai que ça peut être quand même un peu énervant. C'est Bakugo et ces autres personnages, en fait, c'est des camarades de sa classe à la base, parce que ça se passe dans un lycée.
Oui, c'est la seconde A.
Et il a qui d'autre comme camarade tout ce qu'on a vu dans le film.
Il a Momo Yaoyorozu, il y a Rikido Sato, Eijiro Kirishima.
Nom et prénom des camarades de classe, attention. Là, on atteint...
Après, on les a tous vus dans le film, donc...
Ouais, on les a tous vus plus ou moins, quand même. Si. Qu'on a vraiment entreaperçus. Hein.
Tenya, on l'a pas vu. Enfin,
si. Et d'ailleurs, dans la fin du film, il y avait des... Les doubleurs français, il y en avait, mais ils étaient notés, mais on les a pas entendus. Ils ont eu même pas une réplique. Et ils sont dans... Enfin, après, c'est normal, mais bon...
Le film se recentre beaucoup sur l'histoire du héros qui rencontre un personnage, je suppose qu'il n'était pas dans la série. Voilà, un jeune garçon qui vit dans sa caravane, qu'on croit abandonné par son père, enfin en tout cas, et rejeté par ses pères et qui élève son petit frère et sa petite sœur. Peut-être pour donner un autre contraste aussi avec le héros, vous en avez trouvé quoi? Enfin, vous en avez pensé quoi de ce personnage?
En tout cas, son alter est très intéressant. Son alter, c'est un petit oiseau qui le suit un peu partout et qui montre son image. Imaginons, il fait croire qu'il est triste, mais en fait, il est en colère. L'oiseau va exprimer la colère. C'est pour ça qu'on peut savoir s'il est triste ou pas en regardant l'oiseau. C'est ça que je trouve fascinant sur ce personnage.
Et alors, en quoi c'est plus fascinant d'avoir un petit oiseau qui révèle tes émotions et tes sentiments que le pouvoir de faire tout exploser avec la transpiration de ses mains?
Quel insensible.
Ben, tout faire exploser, c'est facile. On prend une grenade, on la balance et ça explose. Alors qu'un petit oiseau qui exprime vos vrais sentiments... Je trouve que c'est plus fascinant de faire exploser des choses avec la sueur de ses mains.
Et en plus, c'est vachement plus utile dans la vie de tous les jours parce que faire exploser des trucs, c'est pas dans le quotidien. Alors que des fois, on sait pas trop ce qu'on ressent parce qu'on est confronté avec notre mental et tout ça. Et genre, c'est vachement plus simple. Enfin, tu sais ce que tu ressens sans te poser 36 000 questions. C'est vachement plus pratique, je trouve, que faire exploser des trucs.
Oui.
On a tous notre petit oiseau imaginaire. Mais un peu pour présenter quand même le pouvoir de Deku, qui a un pouvoir assez particulier, on va tout de suite passer un extrait de la saison 1, je crois du 3e épisode, où son mentor, parce que comme pour tout bon shonen, le héros a un mentor qui est le justicier par excellence, le représentant de la paix qui sauve les gens avec le sourire et qui va lui permettre justement de trouver son alter.
All Might ?
Je parle très sérieusement. Il s'agit de mon alter. Les journaux et les magazines mentionnent une force surhumaine ou un coup de boost. Pendant les interviews, je m'arrange toujours pour répondre par une plaisanterie bien placée. C'est ce que les gens attendent. Un symbole de paix comme All Might doit être né avec un alter. Mais toi, t'es pas comme eux. Je vais te dire la vérité. Mon alter ne m'appartient pas. Il se transmet de héros en héros, tel un flambeau sacré.
Vous pouvez transmettre votre alter ? C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Je te propose d'être le prochain qui va en hériter.
Mais c'est impossible. Non, attendez ! Votre alter fait partie des 7 plus grands mystères du monde. Tous les jours, de nouvelles théories à son sujet apparaissent sur Internet. Mais je n'ai jamais lu qu'il était transmissible.
J'ai hérité d'un alter très particulier. C'est le pouvoir de transmettre son pouvoir. Tu veux connaître son nom ? C'est le One for All.
One for All.
Oui. Celui qui reçoit ce pouvoir le cultive et le transmet à quelqu'un d'autre. À son tour, cette personne le cultive et le transmet. Ce pouvoir est né d'une certaine détresse et de la soif de justice et de courage. C'est la force à l'état pur. Tu es un fan de héros dépourvu d'alter. Malgré ça, tout à l'heure, quand personne ne savait quoi faire, tu t'es montré héroïque.
Transformez-moi en héros !
Le pouvoir du socialisme.
Le dernier.
Alors, donc, pour revenir, donc on vient d'entendre cet extrait, vous êtes toujours sur Radio Pays d'Héros et RPH Sud, et donc nous entendons All Might, donc le pouvoir de la transmission.
Alors, c'est un thème qui est aussi très, très récurrent dans les shonen, hein. Là on le voit à travers, d'une part, le pouvoir de All Might qui peut être transmis à d'autres personnes, alors que les autres pouvoirs ne peuvent pas être transmis. C'est un peu cette question-là de l'héritage et de la transmission. Et d'ailleurs, on le voit dans My Hero Academia, hein, ce sont des jeunes recrues qui sont dans un lycée de super-héros et de super-héroïnes et qui vont devenir la nouvelle génération de super-héros qui vont défendre la planète. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les mangas, notamment dans les shonen, avec cette idée-là d'une jeune génération qui va prendre la relève de l'ancienne et qui va faire mieux que ceux qui étaient là avec. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Est-ce que ça vous parle en tant que jeune ?
Ce qui est bien, c'est que si c'est la nouvelle génération, c'est ceux qui vont créer le monde de demain. Donc c'est ceux qu'il faut plus préserver et aider. Et All Might va donner son pouvoir à Deku pour l'aider, pour qu'il puisse réaliser son rêve de devenir un héros et de sauver le monde avec le sourire.
De plus, les haltères, génération par génération, ils évoluent. Ça veut dire que, par exemple, l'haltère, on le voit dans les saisons 4 de My Hero Academia, donc l'arc de Overhaul, où il y a Eri. Eri est plus petite que toute la classe de seconde A et les gens qu'on voit. Elle a un haltère extrêmement puissant qui est sans doute l'haltère le plus puissant de My Hero Academia, qui fait et que de rembobiner son haltère, c'est rembobinage, c'est-à-dire qu'elle peut rembobiner quelque chose à un état précédent. Donc elle peut tout simplement tuer quelqu'un en claquant des doigts, c'est-à-dire le rembobiner à un stade où il n'était pas encore né. Mais ça marche avec tout. Par exemple, si je me suis fait une blessure là et je me suis cassé des dents, elle peut juste rembobiner l'état où je m'étais pas cassé des dents, mais sans me faire rajeunir, sans enlever la blessure. Juste, c'est un stade et elle peut choisir quoi elle rembobine. Du coup, c'est plus on avance dans les générations, plus les haltères sont extrêmement puissants. Donc les héros seront plus puissants, mais en même temps les super vilains seront aussi plus puissants. Donc c'est un cycle qui est comme ça, toujours plus puissant, et voilà.
C'est vrai qu'ils deviennent de plus en plus puissants, et c'est peut-être pour ça qu'ils arrangeront peut-être le monde d'après ou le détruiront plus. Mais je trouve qu'aussi dans beaucoup de shonen, il y a un énorme respect des plus âgés, du transmet d'héritage, de valeurs. Et je ne sais pas s'il y a forcément une remise en question sur ce qui a été fait par les plus anciens. Ils vont souvent rester dans une certaine conservation de ce qui se passe déjà. Oui, ils deviennent plus forts, mais ils gardent toujours les mêmes valeurs qu'avant. Et je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est une question assez libre. Mais voilà.
Et vous, c'est quoi les haltères qui vous parlent le plus dans cette série, justement, en termes... qu'est-ce qui pour vous est peut-être les haltères les plus louables, ceux qui pourraient le mieux aider à conserver notre monde?
Moi, je pense que c'est l'alter de, je sais plus comment il s'appelle, mais il a une tête de corbeau avec son coéquipier Shadow, et je pense que c'est utile. Par exemple, j'ai la flemme de faire mes devoirs. Il fait les devoirs à la place pendant que j'ai planté des tomates dans le jardin.
Oh bah ça va bien sauver le monde, ça. Hein. Donc toi, ça serait plutôt un espèce de pouvoir qui te permettrait de faire deux choses en même temps et surtout de faire...
faire plusieurs choses à la fois, parce que... Je sais pas, je me bats contre un ennemi. Il y a mon pote, il va m'aider pour battre celui qui est derrière moi.
Voir dans deux directions à la fois. Oui. Alors les autres, selon vous, quels sont les meilleurs haltères de la série?
Moi, pour moi, enfin, c'est pas un haltère qui est dans la série, mais c'est un haltère qui pourrait exister et qui serait pour moi l'haltère le plus puissant, serait de contrôler le temps. Ça veut dire qu'on peut l'arrêter, l'accélérer, voir dans le futur, aller dans le passé. Et donc, pour moi, contrôler le temps, ça serait qu'on pouvait faire tout ce qu'on voudrait. Et donc, ça, en même temps, par exemple, si ce serait un élève de Yue qui aurait cet haltère, au début, par exemple, il peut aller dans le passé que pendant 5 minutes, et il va, ou arrêter le temps que pendant 5 minutes, et il va pouvoir améliorer son haltère en améliorant le temps qu'il peut arrêter, le temps qu'il peut voir dans le passé, ou...
Donc ça servirait à venir rectifier les erreurs du passé.
Oui, c'est ça.
Ok, pas mal.
Moi, ce serait plus un alter, enfin, qui n'existe pas, mais ce serait celui de la sagesse.
Elle n'existe pas, effectivement.
Celui de la sagesse qui pourrait servir pour inciter les autres à faire quelque chose sans les forcer, mais en leur expliquant pourquoi, et au lieu de... démonter chaque fois la tête de ceux qui ne sont pas d'accord. Enfin, c'est ce qui se passe un peu dans Hero Academia, c'est que les super vilains veulent tout détruire et les super gentils veulent les arrêter. Mais celui de la sagesse pourrait rallier des personnes enfin des super vilains avec eux pour arrêter leur tragédie. Enfin.
Donc plutôt le pouvoir de convaincre les autres de changer d'avis.
Voilà, c'est ça.
Cet alter, on peut dire qu'il existe déjà, celui d'Itoshi Shinso. Il peut manipuler le cerveau de l'autre, donc il peut ça s'appelle lavage de cerveau pour cet alter. C'est que il pose une question à l'autre ou il lui dit une phrase, et si l'autre lui répond, lui dit quelque chose, s'il a activé son alter, il est sous contrôle. Après, dans l'examen de Yue, par exemple, Deku a réussi de se sortir de ce pouvoir par la volonté...
Ne spoil pas. Il y en a autour de la table qui n'ont pas encore vu le grand tournoi de la saison 2. Donc ne nous dis pas comment il
oui,
a réussi
mais...
à s'échapper.
Ouais, bon, d'accord.
Mais ça donnerait une toute autre série grâce à ce pouvoir de sagesse. On verrait les héros s'installer à une table et discuter. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs, un petit pouvoir ici? Sofiane, si on t'a pas entendu. Sofiane, est-ce que tu as un petit pouvoir en tête, toi?
Si tu devais avoir un super pouvoir dans la vie, ça serait quoi?
D'enlever l'alter des autres. Et avec l'œil.
Un pouvoir qui permet de bloquer les super pouvoirs des autres quand ils vont un petit peu trop loin et de les rendre normaux en quelque sorte.
Aizawa.
Franchement, Shoto, il est super fort. Je kifferais avoir son pouvoir. Mais pas forcément pour sauver le monde, parce que je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de vouloir sauver le monde en continuant la guerre. Je suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Du coup, ça ressemble un peu au truc de la sagesse, mais je suis pas non plus vraiment d'accord de devoir juste convaincre les autres s'ils sont pas d'accord avec nous. C'est pas ouf non plus, mais faut trouver une solution. Mais je crois que c'est un petit peu ce que les gens essayent de faire depuis l'histoire de l'humanité, comment arrêter la guerre. Donc bon, je suis pas assez forte pour savoir comment on fait.
Le pouvoir de la colombe de la paix.
Sinon, après, le pouvoir aussi qui est très puissant, c'est le All for One. C'est l'inverse du One for All. C'est le pouvoir de prendre le pouvoir de quelqu'un. Donc tu peux avoir tous les pouvoirs du monde. Après, il faut quand même que ton corps soit assez puissant pour tous les supporter. Par exemple, Deku, au début, il doit faire un entraînement très intensif pour avoir le One for All. Parce que sinon, s'il mangerait le cheveu directement, il exploserait en mille morceaux. C'est ce qu'a dit All Might. Donc voilà.
Oui, mais du coup, avec un tel pouvoir, si toi tu récupères tous les pouvoirs du monde et que tu pètes un câble et que tu veux tout détruire, il n'y a plus personne qui peut t'arrêter.
Oui, c'est ça.
Ouais. Toi, tu veux la toute puissance, en fait. Le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs.
Non,
c'est malin,
pas vrai.
C'est malin. On a entendu, il n'y a pas longtemps, là, un petit extrait de la saison 1, hein, du fameux discours de All Might quand il dit à Deku qu'il va pouvoir avoir des super pouvoirs. Moi j'aimerais juste revenir un petit peu là sur cette histoire de version française, hein, parce qu'on l'a entendu en version française, et c'est d'ailleurs moi personnellement la voix qui m'a le plus choqué, parce que All Might dans la version originale il a une voix vraiment badass, et là elle fait vraiment pitié en VF, hein, soyons honnêtes. Vous, quand vous regardez des animés, vous les regardez plutôt en VO ou plutôt en VF?
Alors moi je pense que c'est mieux en VO. Comme ça, on apprend, par exemple, je vais voir, je sais pas, Demon Slayer en japonais. Je dis n'importe quoi. Moi, je pense que c'est mieux de le voir en japonais et d'avoir les sous-titres, comme ça j'apprends des nouveaux mots japonais, que de le voir en français et de ne pas savoir ce qu'ils disent en japonais et pour apprendre de nouveaux mots.
Et aussi, les seiyuu sont beaucoup plus forts pour changer de voix que les doubleurs français. Par exemple, si, je ne sais pas si vous connaissez l'attaque des titans, Eren, le seiyuu de Eren, c'est le même que le seiyuu de Shoto Todoroki, et ils n'ont pas du tout la même voix. Pourtant, c'est le même seiyuu. Alors qu'en France, les gens ont beaucoup moins ce talent que de pouvoir changer de voix.
Alors pour nos auditeurs et nos auditrices quand même, hein, les seiyuu, ce sont les personnes qui ont pour métier de doubler les animés, notamment au Japon, et de donner des voix à ces personnages fictifs. Et c'est vrai que c'est un métier qui est beaucoup plus reconnu en Asie qu'en Europe. Et alors les autres, VO ou VF ?
Bah déjà VO. Et c'est vrai que dans les animés, quand on regarde en VO, il y a souvent de très fortes intonations, avec un petit peu en exagération. Et quand les Français y reprennent ça, ça devient ridicule. c'est juste super drôle. ça casse tout le truc de quand ils font un truc ultra badass et ils font avec une voix de mauviette à côté. Genre, c'est complètement nul.
Vous êtes dur avec la VF. Ouais, j'avais bien aimé du temps où il y avait Full Metal Alchemist qui passait à la télé. Il y avait quand même un petit soin à porter. Enfin, c'était. Ouais, je ne sais pas, peut-être aussi pour... Est-ce que ça a été mieux reçu comme ça ? Est-ce que ça peut expliquer aussi, au départ, que la VF soit venue, et justement, le temps que les gens s'adaptent, et puis maintenant, aujourd'hui, tout le monde en japonais. Et puis, c'est vrai que grâce à Netflix aussi, qui diffuse aussi ce genre d'animé, maintenant, on peut avoir très facilement accès, et légalement, à des VO originales.
Et avec des sous-titres professionnels aussi. Ça change de l'époque, hein, toi-même tu sais, hein, des sous-titres faits à l'arrache avec plein de fautes et qui ne signifient plus rien à la fin.
C'est vrai que tu m'expliquais que toi, ouais, c'est ça, tu t'allais chercher dans des blocs obscurs pour trouver des VO dignes de ce nom, quoi.
Ouais, moi quand j'avais leur âge, déjà il n'y avait pas Netflix, donc ça résout beaucoup de, de problèmes, et puis on attendait vraiment la sortie. De l'épisode au Japon, ensuite il était traduit par des Américains, et puis une fois que ça s'était fait, il y avait des teams françaises qui pouvaient retraduire les sous-titres de l'Américain au français, ce qui nous permettait d'avoir notre épisode le dimanche soir. Ouh, trop bien. Maintenant c'est un peu plus facile quand même avec Netflix et toutes les plateformes qui existent, hein.
Film par rapport aux animés, c'est aussi filmé de la même manière, parce qu'il y a quand même quelques séquences qui sont plutôt bien foutues. Enfin, il y en a des un peu plus épileptiques, effectivement, à la fin, on employait ce mot où là, ça devenait un peu plus difficile à suivre. Mais il y avait des séquences, parce que son pouvoir aussi à des coups lui permet un peu de faire des sauts comme Spider-Man. Hein. D'ailleurs, Spider-Man, on sait que l'auteur de My Hero Academia est un grand fan de comics, et qu'il a un buste géant de Carnage chez lui. Fact. Donc voilà, est-ce qu'il y a aussi tous ces plans-séquences un peu comme ça, super léchés, où tu suis l'action sans coupure, avec des élans dans les airs et autres actions folles.
Après, My Hero Academia, c'est un animé qui est très bien animé. Mais il y a quand même des animés qui sont encore mieux dans l'animation, comme SNK, ou je n'ai pas d'autres exemples en tête là, mais ouais, SNK, ça me paraît.
Il y a un truc peut-être, dans l'animation, vous, comment vous ressentez les combats et tout ça, ou alors si vous avez en effet d'autres mangas qui sont plus interpellants en termes d'action et de mise en scène.
Alors je trouve que Naruto, c'est aussi beaucoup d'action, beaucoup de combats, J'ai commencé la série, ça commençait tout doux. Et plus tard, mais que des combats, je passais les épisodes tellement qu'il y en avait.
Donc toi, ce qui te botte le plus, c'est pas forcément les combats, quoi.
Bah, quand il y a trop de combats, ça commence à devenir énervant. Il y avait un combat contre Orochimaru. Ça a duré, je sais, 2 épisodes ou 3. Bon, longtemps quand même. J'ai passé les épisodes, j'en avais marre de regarder toujours le même combat.
Oui, c'est vrai que ce combat était très long à la fin de Naruto et même jusqu'à la fin de Naruto jusqu'au début de Naruto Shippuden. Il y a eu, enfin pas au début, mais je veux dire à la toute fin de Naruto, il y a eu ce combat. Et par exemple, moi j'ai fini Naruto en manga et j'ai recommencé en animé. Je suis à là où le combat commence. Il me reste à peu près 30 épisodes jusqu'à la fin du combat. Et le pire, c'est que moi je regarde sur Prime. Il y a des fois, il y a des épisodes qui ne sont pas disponibles. Du coup, je suis obligée d'attendre qu'ils soient disponibles pour le regarder, et puis après, que en fait, cet épisode ne servait totalement à rien. Donc voilà.
J'aimerais aussi noter que dans les combats de Naruto, si vous mettez sur pause, l'animé est complètement à chier. Genre, vous arrêtez, ils ont des gueules, ça ressemble à rien, ils sont complètement déformés. Et c'est vraiment très très drôle.
J'ai déjà essayé, oui, c'est drôle.
Il y a même des compilations de moments où tu mets pause et ça, c'est...
Donc ils ratent un peu leur cible, les réalisateurs, à faire ça. Mais pourquoi continuent-ils à s'acharner et à nous présenter de la bouée visuelle?
Bon, alors là, vous avez pas mal parlé de Naruto quand même et de la longueur des combats que je rejoins. Hein, sur Dragon Ball, c'était un peu pareil. Il y avait des combats qui faisaient toute une saison, hein, si vous vous souvenez. Est-ce que vous trouvez que, justement, dans My Hero Academia, qui est quand même un petit peu plus récent hein, que Naruto, on a quand même ces longueurs-là?
Je trouve que c'est pas aussi long que Naruto. C'est ça qui est bien. C'est parce que Naruto, ça dure plein d'épisodes, des fois, les combats. Alors qu'en My Hero Academia, ça prend pas longtemps, les combats. Ça se termine assez vite. Et c'est ça qui m'a poussé à continuer la série. Parce qu'il n'y a pas des combats de longue, quoi. Il y a de l'action.
Ouais, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bel effort sur les flashbacks aussi. Parce que dans Naruto, moi, ce qui me rendait fou, c'était d'avoir 20 fois le même flashback sur 3 épisodes d'affilée. Là, ça...
ouais.
Là, au moins, sur My Hero Academia, il y a des flashbacks de temps en temps qui viennent interrompre l'action. Mais ça reste quand même très minoritaire par rapport au reste de l'histoire.
Oui, pareil, au même moment d'Orochimaru, quand Sasuke il se bat contre Naruto, il y a 3 épisodes de flashback de Itachi et Sasuke. Après c'est intéressant hein, ça moi j'adore ce moment-là hein, mais au bout d'un moment c'est sûr qu'ils répètent à chaque fois la même chose avec Itachi, comment il a buté toute sa famille, voilà.
Et le pire c'est que du coup dans Shippuden, comme c'est la deuxième série de Naruto, ils refont tous les flashbacks, tu peux revoir toute la série Naruto dans Naruto Shippuden, c'est horrible.
Surtout c'est il y a des épisodes, c'est que des flashbacks. Le flashback avec Jiraiya et Orochimaru, avec l'enfance de Naruto, de Sasuke, de Kakashi aussi. Mais tous ces flashbacks, c'est vrai, ça apprend des choses et c'est bien. Mais après, il y a que des flashbacks de toute la série Naruto, c'est un peu énervant.
Juste en reprenant sur les bastons, elles sont rapides, mais... il se passe quand même plein de choses en peu de temps. Et c'est ce qui accroche, en fait, c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'actions. Donc, il y aura beaucoup de blessés, il y aura beaucoup de sang, mais...
Juste une chose, si t'appelles ça beaucoup de sang, je peux te dire que My Hero Academia, c'est l'animé que j'ai vu avec le moins de sang.
Tokyo Ghoul, c'est extrêmement gore. Même SNK.
Oui. Après, il y a des animés qui sont gore, mais qui sont bien. Même sans. Il y a des animés où il n'y a pas. Enfin, si, il y a des pouvoirs, mais genre, il y a un pouvoir et
le monde est totalement normal, mais c'est quand même assez... Même là où le monde est totalement normal, c'est un des c'est les animés où tu t'identifies le plus.
Un héros trop gentil, pas assez de sang, aucun mort. Je suis déçu.
C'est vraiment nul. Hein.
Bah, vu qu'on est avec des passionnés de manga autour de cette table et des connaisseurs, j'ai envie de savoir mais quels sont, quel est le manga à lire en ce moment hein. Parce qu'on pourrait citer tous les shonen qu'on connaît tous, mais voilà, quel est le manga du moment ? C'est quoi qu'il faut regarder en ce moment ?
Pour moi, le meilleur animé, le meilleur manga, c'est Tokyo Revengers. C'est vraiment...
Comment tu dis ?
Tokyo Revengers. C'est, sans spoiler, hein, je raconte le premier épisode, c'est quelqu'un, donc Takemichi, qui vit chez lui, il a un peu raté sa vie. Et il va au boulot, enfin, il sort, il va prendre le train et quelqu'un le pousse sur la voie du train. Et donc là, il va mourir et il se met à aller dans le passé. Donc son but... Ah oui, et j'ai oublié un détail très important. Au début, on apprend à la télé que Hinata Tachibana est morte. Et en fait, Hinata Tachibana, il se souvient que c'était sa meuf au collège. Et donc lui, il se dit, bah, je suis dans le passé, autant sauver Hinata. Et donc le manga porte sur ça de base et après ça part un peu et pour moi c'est un des animés, c'est un peu, c'est même beaucoup violent, mais c'est pour moi c'est voilà, c'est
le top. Les autres alors, qu'est-ce que c'est le manga ou l'animé du moment?
Je sais pas si c'est l'animé du moment, mais j'ai commencé, c'est très très drôle, c'est One Punch Man. Et celui-là, franchement, vous pouvez le regarder en VF parce que c'est Orelsan qui double le personnage principal. Le personnage principal, il est quand même assez blasé parce que c'est un super héros qui s'est beaucoup entraîné. Il est super fort et en un seul coup, il tue tout le monde. Et d'ailleurs, pour son entraînement, tout le monde lui demande « Mais comment t'as fait pour devenir si fort ?» Il a juste fait des pompes et des abdos pendant un an. Et c'est très drôle et du coup, il est très blasé. Et donc, ça mène à des combats où lui ne se bat pas vraiment. Et son rêve, c'est de rencontrer un ennemi qui lui donnera plus de fil à retordre. Et voilà, il est quand même assez drôle à voir. Je ne sais pas si c'est le meilleur animé, mais il est sympa.
Bon, moi, c'est Demon Slayer. Parce qu'il y a, en fait, il y a plein d'aventures. Chaque épisode, il y a une mission...
Ça bouge un peu plus que les autres mangas où des fois il y a des trucs qui prennent plusieurs épisodes justement.
Le truc c'est qu'en fait ça se termine, il n'y a pas la saison 2 sur Netflix.
Tu attends donc la saison 2. Ouais, regardez des mangas sur les plateformes, ça les incitera à mettre les autres saisons derrière.
Après, elle sort en 2022. Bon.
Ok. Alors, il nous reste 2 minutes, peut-être aussi un petit choix de manga, une petite suggestion.
Moi, ce que j'aime bien, c'est Radiant. C'est un endroit genre c'est où il y a une magie qui émane de partout, appelée le Fantasia. Et puis, il y a des monstres qui peuvent contrôler cette magie. Ils tombent du ciel dans des œufs, ils éclosent et ils attaquent tout le monde. Et les rares personnes qui arrivent à survivre après les avoir touchées, eh ben, ils ont des pouvoirs, ils peuvent contrôler la magie, mais ils ont une malédiction appelée une infection. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'appelle Seth qui veut détruire le Radiant pour détruire tous les autres monstres. Pour que...
Un peu le speech du film qu'on vient de voir, en fait. Hein.
Ben aussi, il y a ceux qui n'ont pas été touchés par l'infection, qui détestent les sorciers. Et ils veulent, la plupart veulent les tuer. Et lui, c'est un enfant spécial qui. Il est né sorcier. Et il a des milliards de frères. En fait, on en voit un qui dit être son grand frère. Puis un autre épisode, on voit quelqu'un qui dit qu'il est aussi son frère. Et il parle de quelqu'un qui est également son frère. Donc, ils ont découvert que leur grand frère les manipulait détruire des villages et tout.
Ok, donc si on récapitule, on a Radiant, on a My Hero Academia par ici, on a One Punch Man et Demon Slayer ici.
Tokyo Revenger.
Et Tokyo Revenger, c'était le seul qui me manquait. Voilà pour les petits conseils de manga spécial RPH.
Moi, je conseillerais bien sûr 20th Century Boys, un grand manga que j'affectionne tout particulièrement. Et nous arrivons déjà à la fin de ce second ciné-débat sur My Hero Academia World Mission. Ben, ma foi, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié être avec vous. Un grand merci, Electre, Luce, Eline, Millie, Colin et Sofiane. Et Sarah, service civique, rappelons-le, pour la compagnie des jeux, qu'on retrouvera certainement à la radio. Et bien sûr, le grand Florian.
Merci à tous et à toutes. Et puis, on espère vous revoir très prochainement pour le prochain ciné-débat organisé par la LSH Jeune et RPH.
Et merci, Axel, à la technique. Call it